Vous écoutez France Culture.
Vous écoutez France Culture, il est 12h30. C'est l'heure du journal de la rédaction avec vous, Ilan Malka, bonjour.
Bonjour Romain, bonjour à tous. Le dernier bilan de la catastrophe de Gênes en Italie fait état de 39 morts et d'une quinzaine de blessés. Trois Français ont perdu la vie selon le Quai d'Orsay. Le gouvernement italien réclame la démission des dirigeants de l'entreprise gestionnaire de l'autoroute A10. Il a lancé une procédure de révocation du contrat de concession. Nous entendrons les précisions de nos correspondants sur place, Delphine Evenou et Antonino Gallofaro. Israël a rouvert ce matin le seul point de passage vers la bande de Gaza permettant à des marchandises de rentrer dans l'enclave. Est-ce un signe que la situation au Proche-Orient peut aller vers un apaisement? Nous aurons des éléments de réponse avec Marie Semelin. Et puis en France, les ventes d'immeubles de l'État à bas prix ont-elles profité au logement social? C'était l'un des paris de la loi Duflot en 2013, mais selon un rapport du député Jean-Paul Mattei, les résultats apparaissent décevants. Nous entendrons les explications d'Elia Bergel. À 12h45, on vous retrouve Romain de Bec de Lièvre pour la grande table d'été. De quoi sera-t-il question?
Une table ronde avec trois réalisateurs de courts-métrages qui manifestent pour un nouveau cinéma. Et en seconde partie, le portrait du pianiste Gauthier Toux.
À tout à l'heure. Le dernier bilan de la tragédie de Gênes en Italie est donc d'au moins 39 morts. Le Quai d'Orsay annonce dans un communiqué la présence de trois ressortissants français parmi les victimes de cette catastrophe. Selon la protection civile, ce sont une trentaine de voitures et trois poids lourds qui ont été précipités dans le vide lorsque le pont de Morandi s'est effondré hier sur l'autoroute A10. Sur place, les opérations de secours se poursuivent. Un millier de secouristes italiens sont sur place. Delphine Evenou, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes sur place justement devant le pont de Morandi. Y a-t-il encore un espoir de retrouver des survivants ?
Évidemment, hors de question d'abandonner les recherches. Il y a encore de l'espoir. On estime qu'on peut potentiellement retrouver des survivants 5 à 6 jours après une catastrophe de ce type. Il y a une demi-heure, les secouristes ont retrouvé dans les décombres un chien vivant. Et on le rappelle, les pompiers sont rodés à ce genre d'opération très similaire à celle menée après un tremblement de terre dont ils ont l'habitude. Depuis cette nuit, deux grandes pelleteuses, deux énormes engins de plusieurs dizaines de mètres de hauteur travaille à soulever les immenses blocs de béton les plus lourds afin de pouvoir explorer les cavités qui étaient jusque-là inaccessibles. C'est donc la deuxième phase des opérations qui a été entamée. Pendant ce temps, la polémique sur l'état du pont continue d'enfler. Ce matin, le ministre des Transports a fait savoir que le gouvernement exigerait la démission des dirigeants de la concession autoroutière Autostrade per l'Italia. Et puis on attend ici au pont Morandi l'arrivée de Matteo Salvini, l'omniprésent ministre de l'Intérieur, qui a déjà expliqué qu'il voulait que les responsables de cet accident paient très cher.
Merci à vous Delphine Evenou, donc en direct depuis le pont de Morandi avec les moyens techniques de Romain Lucas. Alors cet accident pose bien sûr de très nombreuses questions qui restent pour le moment sans réponse, mais quelques hypothèses sur les causes surgissent déjà au lendemain donc de ce drame. Antonino Gallofaro, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, quelles hypothèses justement sont exploitées pour le moment ?
Il n'y a pas vraiment d'hypothèses sur le drame d'hier, mais plutôt des critiques qu'on connaissait déjà depuis de nombreuses années. Il y a par exemple 2 ans, le professeur Antonio Brentzig de l'université de Gênes avait averti que ce pont était trop rigide et qu'il était devenu trop coûteux à entretenir. Pour lui, c'était même une erreur d'ingénierie. Le drame d'hier n'est donc pour lui pas une surprise. Selon l'architecte génois encore, Diego Zoppi, le problème, c'est le matériau choisi par l'ingénieur responsable de la construction il y a une cinquantaine d'années. Riccardo Morandi avait choisi du béton plutôt que du métal pour les tirants du viaduc, sans tenir compte de l'usure des micro-fissures potentiellement provoquées dans le temps par le trafic. Aujourd'hui éventré, son pont sera entièrement détruit. Matteo Salvini l'avait dit hier, le ministre de l'Intérieur et chef de la Ligue à l'extrême droite et au pouvoir recherche le coupable. Luigi Di Maio, le ministre du Travail et chef du mouvement 5 étoiles, lui fait écho. Le nom du responsable est Autostrada per l'Italia. Il s'agit de la société qui gère partie des autoroutes italiennes, dont le tronçon de Gênes. Le gouvernement anti-système et populiste n'accepte pas les excuses de l'entreprise. Luigi Di Maio, qui est aussi vice-premier ministre, a appelé à leur démission, à la démission de ses dirigeants. Il a aussi rappelé qu'il est possible de leur retirer leur concession et de faire payer une amende allant jusqu'à 150 millions d'euros.
Merci à vous, Antonino Gallofaro, a précisé que de son côté, la société se défend dans un communiqué. Elle affirme que le pont Morandi faisait l'objet de contrôles trimestriels, comme l'exige la loi. La presse britannique dévoile aujourd'hui des informations sur le principal suspect de cette attaque à la voiture Bélier qui s'est déroulée hier à proximité du Parlement, faisant 3 blessés légers. Il s'agirait donc d'un Britannique de 29 ans, habitant Birmingham, d'origine soudanaise, manager d'un magasin. Il était jusqu'à présent inconnu des services de sécurité. Ses motivations réelles ne sont pas encore établies, même si l'affaire est toujours traitée comme relevant du terrorisme. Ce scandale aux États-Unis en Pennsylvanie suite à ce rapport rendu public par le procureur général Josh Shapiro, rapport qui décrit dans le détail des viols et abus sexuels commis par près de 300 hommes d'église sur une période de 70 ans. Quelques 1000 enfants auraient subi ces sévices, ils pourraient même être beaucoup plus nombreux selon le procureur qui affirme que les prêtres se sont servis de la foi comme d'une arme pour faire taire leurs victimes. Les évêques locaux sont soupçonnés d'avoir couvert ces abus. C'est peut-être une petite goutte d'apaisement dans un océan de tension au Proche-Orient. Israël rouvre aujourd'hui son seul point de passage pour les marchandises vers la bande de Gaza. Des dizaines de camions transportant notamment du carburant ont franchi aujourd'hui ce terminal qui s'appelle Kerem Shalom. Ce passage était largement fermé depuis juillet dernier. Sur place, les précisions de notre correspondante Marie Semelin.
Cette décision fait suite à plusieurs jours d'un calme relatif entre Gaza et Israël après une nouvelle escalade militaire il y a une semaine. La réouverture de ce point de passage s'accompagne d'un retour de la zone de pêche à 9000 nautiques, soit 17 km, au lieu des 3 imposés dans le cadre du renforcement du blocus ces dernières semaines. Cette annonce est accompagnée d'un message délivré sur les réseaux sociaux en arabe par le très à droite ministre de la Défense, Avigdor Lieberman. Le calme vaut mieux que la violence et il réaffirme la priorité pour le gouvernement israélien, la sécurité de ses citoyens. Mais la décision ne fait pas l'unanimité et l'ultranationaliste ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, a qualifié cette réouverture de récompense pour des terroristes. Il s'oppose aussi aux négociations indirectes qui sont en cours via l'Égypte et les Nations Unies pour un cessez-le-feu durable. La coalition gouvernementale est divisée et la difficulté pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou, c'est de rétablir le calme sans paraître faible aux yeux de l'opinion, alors que depuis 2006, c'est la cession du Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza. 3 guerres l'ont déjà opposé à l'État hébreu. Du côté des responsables gazaouis, la priorité numéro 1, c'est d'obtenir un allègement de ce blocus israélien et égyptien qui étouffe l'enclave depuis plus de 10 ans. Gaza est mise à genoux par une grave crise sociale et humanitaire.
Et aujourd'hui, les camions ont donc pu délivrer les marchandises essentielles à la survie économique donc de Gaza depuis le rétablissement de ce passage. Au Brésil, Lula da Silva va-t-il faire son retour dans le jeu électoral? En tout cas, le Parti des Travailleurs dépose aujourd'hui la candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain de Lula da Silva, qui avait donc gouverné le pays de 2003 à 2011. Le problème, c'est que Lula est emprisonné depuis 3 mois suite à une condamnation à 12 ans de prison. Il ne pourra donc probablement pas participer à l'élection, mais il serait pourtant, Anne Vigna, capable de faire élire un candidat sous son nom.
Les militants du Parti des Travailleurs, les syndicalistes, les paysans sans terre, les féministes sont bien arrivés à Brasilia pour le jour J et le dépôt de la candidature de Lula. Une démonstration de force du plus grand parti politique d'Amérique latine dont le leader est toujours en tête des intentions de vote 5 mois après son incarcération. La gauche brésilienne continue de dénoncer le rôle trouble que joue la justice dans le champ politique. Comme le dit la philosophe Marcia Tiburi, elle est candidate du PT au poste de gouverneur de l'État de Rio.
Lula n'a commis aucun crime, comme l'ancienne présidente Dilma Rousseff n'en avait pas commis. La démocratie brésilienne est moribonde depuis 2016. Le pouvoir judiciaire est de plus en plus fasciste et agit toujours plus selon des convictions politiques. Il n'a pas le droit de le faire selon notre constitution. Gagner cette élection est le seul moyen de restaurer la démocratie.
Gagner ne sera pourtant pas simple. La justice a déjà décidé que Lula ne peut pas participer au débat télévisé et va probablement invalider sa candidature à la présidence. L'ancien maire de São Paulo, Fernando Haddad, le vice-président dans ce ticket avec Lula, prendrait alors sa place. Selon les sondages, il pourrait être au second tour en prenant le nom de Fernando Lula Haddad. L'ancien président serait aussi le meilleur barrage à l'extrême droite qui apparaît en seconde position dans les intentions de vote de cette élection.
Reportage donc d'Anne Vigna au Brésil. Partons maintenant pour le Mali où l'on attend toujours les résultats du second tour de l'élection présidentielle de dimanche dernier. Élection qui opposait le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, grand favori, et le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. Le gouvernement a jusqu'à vendredi pour publier les résultats provisoires qui doivent ensuite être validés par la Cour constitutionnelle. Mais les deux camps sont déjà en train de revendiquer la victoire, Marie Matigot.
Le camp du président sortant affirme déjà qu'Ibrahim Boubacar Keïta devrait être confortablement réélu selon leur propre compilation des résultats. En face, Soumaïla Cissé affirme qu'il est en tête des suffrages si l'on ne tient pas compte des bureaux de vote où, selon lui, il y a eu des fraudes et notamment du bourrage d'urnes. Il est vrai qu'au premier tour, certains résultats étonnés, dans certaines zones du Nord, pourtant marquées par l'insécurité, les taux de participation étaient deux fois supérieurs à la moyenne nationale et c'est dans ces zones que le président sortant y a fait ses meilleurs scores. Certaines circonscriptions ont également compté plus de votants que de cartes d'électeurs retirées. Alors pour ce second tour, le chef de file de l'opposition a déjà annoncé qu'il n'accepterait pas les résultats de certains bureaux, tout en prenant soin de ne pas rejeter en bloc l'issue de l'élection présidentielle. Soumaïla Cissé a également demandé aux Maliens de se mobiliser contre les soupçons de fraude, sans pour autant appeler à manifester. Son équipe de campagne affirme qu'il aura recours au voile légal, comme le demande la communauté internationale. L'opposition ne souhaite pas forcément d'agitation, pas sûr non plus que la base électorale soit prête à descendre dans la rue. Et puis, les élections législatives approchent, elles sont prévues pour l'automne prochain, et Soumaïla Cissé a son statut de chef de file de l'opposition à défendre.
Reportage donc signé Marie Matigot. L'Inde va lancer d'ici 4 ans sa première mission spatiale habitée, c'est ce que déclare le Premier ministre Narendra Modi. En l'an 2022, voire si possible avant, l'Inde déploiera son drapeau tricolore dans l'espace, dit-il. Le pays deviendrait ainsi le 4e, après la Russie, les États-Unis et la Chine, à réaliser seule cette prouesse technologique. L'Inde a considérablement augmenté ces 10 dernières années ses investissements dans son programme spatial. En 2014, le pays était parvenu à placer une sonde en orbite autour de la planète Mars. On devrait connaître demain le nom du nouveau PDG d'Air France KLM, selon le quotidien Libération. Sa nomination devrait intervenir lors d'un conseil d'administration. Pour rappel, l'ancien PDG Jean-Marc Janaillac a démissionné il y a plus de 3 mois, le 4 mai, après avoir été désavoué lors d'une consultation du personnel. Son remplaçant n'est donc pas encore connu, mais parmi les noms qui se murmurent sérieusement, il y a celui de Benjamin Smith, numéro 2 d'Air Canada. Air France KLM affirme que rien n'est décidé pour l'instant. Vendre des immeubles de l'État au prix inférieur à celui du marché pour pouvoir ensuite construire rapidement des logements sociaux en France. L'idée figurait dans la loi Duflot, loi Cécile Duflot de 2013. Mais alors cette idée pouvait être belle sur le papier, a-t-elle vraiment donné des résultats satisfaisants? Il est permis d'en douter avec ce rapport du député Jean-Paul Mattei. Bonjour Elia Bergel.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
Alors selon ce rapport, ce dispositif n'a pas véritablement tenu ses promesses.
L'intention était louable. Voilà la conclusion du député Jean-Paul Mattei en charge du rapport parlementaire sur le dispositif Duflot. Ce mécanisme devait permettre de vendre moins cher des biens immobiliers appartenant à l'État pour en faire des logements sociaux avec une idée en tête, favoriser la mixité sociale, notamment dans les zones tendues comme Paris. Mais le rapport parlementaire publié hier montre les limites du dispositif. En 5 ans, seulement 6 000 logements HLM ont vu le jour contre 110 000 initialement prévus. Surtout, le produit de ces ventes de biens de l'État est en baisse constante depuis 2015. L'année dernière, ce produit était de 347,49 millions d'euros, une diminution de 40% par rapport à 2016. D'après le rapport, la moitié des biens proposés par l'État ne sont pas en zone tendue, où il n'y a donc aucune urgence à construire des logements sociaux. Par ailleurs, l'année dernière, la Cour des comptes avait alerté sur le système de vente par décote, le fameux dispositif Duflot donc, notamment en dénonçant l'absence de contrôle. Mais pour la mairie de Paris, ce dispositif serait efficace. L'adjoint au logement à la ville, Yann Brossa, assure que sans décote Duflot, il n'y aurait pas eu de logements sociaux dans le 7e arrondissement.
Merci à vous, Elie Abergel, pour ces précisions. Un mot du temps d'aujourd'hui. Quelques gouttes pourraient encore tomber sur les Alpes du Sud et la Corse, mais les averses seront, quoi qu'il en soit, plus faibles que les jours précédents. Le soleil domine aujourd'hui sur l'ensemble du pays avec des températures en hausse. L'après-midi, il fera 21 à 25 degrés près de la Manche, 26 à 31 degrés ailleurs, 29 à 34 autour de la Méditerranée. Cette édition a été préparée avec Yacine Bouzard. Elle a été réalisée à la technique par Jean Frédérix. Je vous retrouve à 18h pour le prochain journal.